Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante, la RDC CENI, a clôturé hier mercredi l'opération de réception des candidatures pour les élections législatives nationales et la présidentielle du 23 décembre prochain. Et au terme de cette opération, une vingtaine de candidats ont été enregistrés pour la présidentielle, dont celle d'Emmanuel Chadari, pour représenter le camp présidentiel. Quelle analyse faire de cette nouvelle étape franchie par le processus électoral de la République démocratique du Congo? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Bob Bolaboué, président national du parti politique Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et le Renouveau, RPDR en sigle. Vous êtes aussi rapporteur de la plateforme dynamique de l'opposition qui soutient la candidature de Martin Fayulu.
Tout à fait.
Bob Bolaboué, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Thierry André Kakouata, nous y arrivons, député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, MRL, parti politique membre de la majorité présidentielle. Patrick Thierry André Kakouata, bonsoir.
Bonsoir, et j'en profite aussi pour saluer la population de Kolwezi. Bonsoir.
Bonsoir. Et enfin, Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administrative de l'université de Kinshasa. Prof Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales ont fermé officiellement leurs portes hier mercredi, comme prévu par la CENI. Une vingtaine de candidats ont été dénombrés pour la présidentielle, mais qui sont ces candidats président de la République? Les détails avec Paul Matendo.
Dans l'ensemble, ils sont 19 candidats à avoir déposé effectivement leur dossier de candidature à l'élection présidentielle. Pour les candidats des partis ou regroupements politiques, il y a Yves Mpunga, président du parti Lutte pour le Congo Meilleur, Freddy Matungulu du parti Congo Nabisso, Emmanuel Chadari du Front Commun pour le Congo, Adolphe Mouzito du mouvement Nouvel Élan du Congo, Antoine Gizenga du PALU, Jean-Pierre Bemba du mouvement des Libérations du Congo, Vital Kamere de l'Union pour la Nation Congolaise, Félix Antoine Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Pasteur Rajaboum du Parti Congo Uni pour le changement, dont le dossier a été déposé par son mandataire, lui-même étant absent de Kinshasa, Martin Fayulu de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. À cela s'ajoute le Premier ministre honoraire Sami Badibanga et le professeur Michel Okungo. Parmi les candidats qui se présentent comme indépendants, citons le professeur Tréfon Kinkyeo Amulumba, Alain Daniel Chekomba, Pasteur Théodore Ngoï et Seth Kikuni Masoudi qui fut le tout premier candidat à avoir déposé son dossier de candidature. L'unique femme qui s'élance dans la course à la magistrature suprême pour le compte d'un parti politique s'appelle Marie-Josée Ifoku, signalant que la liste pourrait s'allonger puisque quelques jetons ont été retirés par des candidats potentiels. Ces derniers ont 48 heures pour déposer leur dossier de candidature conformément à la loi.
Bob Bolaboué, président national du parti politique Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et le Renouveau, RPDR. Vous êtes aussi rapporteur de la plateforme dynamique de l'opposition qui soutient la candidature de Martin Fayulu. Quel commentaire faire de cette opération des dépôts de candidature et surtout du nombre, mais également du profil des candidats?
Oui, merci pour la question. Je pense que la première chose que nous pouvons relever, c'est la victoire du peuple congolais. Victoire du peuple congolais, pourquoi? Parce que nous devons restituer les choses dans son contexte. Vous savez, normalement, c'est depuis 2016 qu'on devrait avoir des élections dans ce pays. Mais pour des raisons que vous savez, il n'y a pas eu d'élection. Malgré le fait que la CENI, le dialogue de la CENCO avait accordé une année de plus au pouvoir pour organiser les élections, il n'y a pas eu élection, donc la constitution a été violée. Vous savez également que le peuple congolais s'est battu. Contrairement à ce qui s'est passé à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, où Sassou a modifié la constitution. Ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda, où Kagame a modifié la constitution. Si on peut partir, par exemple, au Burundi, c'est plus pareil. Mais au Congo, malgré la volonté du pouvoir pour modifier la constitution, le peuple s'est levé, le peuple était debout, le peuple a dit non. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque King Wadondo avait parlé à Lingala, disant que tout le monde lit Wana. Lorsqu'ils ont voulu soumettre ces élections à la loi, comment dirais-je, au recensement, tout ça c'était de stratégie pour vouloir de conduire vers une modification. Mais le peuple s'est battu. Aujourd'hui, que le président Kabila ne soit pas candidat, aujourd'hui qu'il y ait, donc c'est une victoire pour le peuple. Je rends hommage au peuple congolais. Maintenant, pour revenir concrètement à votre question, je pense que oui, c'est une très très bonne chose. Qu'il y ait eu beaucoup de candidats, c'est très bien. C'est même très bien. On sent que on est dans la démocratie. Mais ça, c'est juste une première victoire. Parce que il y a deux autres combats que nous devons mener. Les combats qui consistent justement à faire en sorte que la machine à voter soit élagué, de la même manière aussi que notre combat consiste aujourd'hui à se battre pour que les 10 millions d'électeurs fictifs ne soient plus là. Voilà. Donc je dirais, c'est une victoire pour le peuple congolais, premier élément, mais cette victoire doit être suivie par d'autres victoires, par d'autres combats qui consisteraient justement à ce que nous puissions faire partie de la machine à voler, non excusez-moi, la machine à tricher, non je veux dire la machine à voter. Il faut qu'on fasse partir ça, et puis les 10 millions d'électeurs, on n'en veut pas. Là maintenant, on pourra dire que les élections pourraient être crédibles, transparentes et apaisées.
Alors, nous reviendrons sur un certain nombre de détails que vous avez évoqués tout à l'heure, mais arrêtons-nous un instant sur les suspicions, ce chapitre que vous venez d'évoquer, longtemps accusé, longtemps l'opposition a accusé le pouvoir de vouloir briguer un troisième mandat, le président de la République surtout. Alors maintenant, apparemment, avec la non-présence de sa candidature, est-ce que vous êtes soulagé?
Et justement, ce que je veux vous dire, c'est la victoire de tout un peuple. Oui, on est soulagé. On est soulagé, mais nous restons vigilants. Vigilants pour le reste des événements. Voilà. Donc, oui, c'est une très bonne chose qu'il ne soit pas candidat. Mais je mets ça au profit du combat mené par le peuple. Parce que si en 2016, on avait eu élection, peut-être aujourd'hui, il serait encore vivant. Le jeune garçon qui était mort à l'Emba, vous savez comment il s'appelle encore?
De mémoire, ça ne me revient pas.
Très bien. Elle serait encore vivante, la petite fille qui était morte à Kitambo. Vous vous souvenez encore de son nom?
C'est difficile de se souvenir des personnes dont les noms
ne
sont
bien,
pas connus.
Très bien. Le produit, c'est que s'il y avait eu respect de la Constitution, c'est depuis 2016 qu'il y aurait eu élection, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le fait qu'aujourd'hui, on nous amène vers le 23 décembre, c'est une très très bonne chose, mais une fois de plus, je reviens pour dire que nous nous sommes inscrits, nous, membres de la dynamique qui soutenons la candidature de Martin Fayoul, le candidat le plus crédible, le plus valable. Nous, membres de la dynamique, disons ceci. Nous sommes pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Puisqu'on était prêts depuis 2016, nous sommes inscrits à la provinciale. On s'est inscrit à la nationale. On a même un candidat président de la République. Mais cela veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous irons aux élections lorsque les conditions seront réunies, quand nous serons vraiment sûrs que les élections seront crédibles, transparentes et apaisées. Et pour que cela soit possible, il faudrait qu'il n'y ait pas cette machine à voter, il faudrait qu'il y ait extirpation de plus de 10 millions de Congolais fictifs.
Alors, Bob Boulaboué, vous avez longtemps crié les autres raisons pour lesquelles l'opposition ne voulait pas aller aux élections. Maintenant que le président de la République n'a pas déposé sa candidature, qui était la réclamation phare, on a l'impression que l'opposition, un peu comme le soupçonnait la majorité, ne veut vraiment pas d'élections, parce que à chaque pas franchi, à chaque élément positif glané, l'opposition manifeste d'autres problèmes présentés comme des problèmes absolument à résoudre.
Attendez, on serait contre les élections, on s'inscrivait. Je vous dis que nous sommes inscrits au niveau de la provinciale. Nous sommes présents au niveau national. On a même un candidat député, un candidat président de la République. Et quand vous voyez au niveau de l'opposition, on a Martin Fayoulou comme candidat. On a Jean et Félix Tshisekedi comme candidat. On avait Moïse Katumbi. Et vous savez ce qui s'est passé. Mais je peux citer beaucoup de candidats. Jean-Pierre Bemba comme candidat.
Et puis, l'opinion que vous évoquez, c'est l'opinion de votre regroupement politique. L'opposition n'a pas encore pris de manière globale et de manière unique une position commune.
Mais tout à fait. Rappelez-vous, dernièrement, on avait eu une réunion à Fatima. Toute l'opposition réunie, on a fait une déclaration. Ce que moi je vous dis là, c'est vrai que je représente la dynamique, mais je suis en train aussi de parler au nom de l'opposition unie à Fatima.
Autrement dit, pour éclairer ce point, malgré que le président de la République, Joseph Kabila, ne se représente pas pour un troisième mandat, vous n'êtes pas prêt à aller aux élections la machine à voter est maintenue.
Voilà, nous disons que nous sommes prêts à aller aux élections crédibles, transparentes et apaisées. Or, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que, avec la configuration politique actuelle, les élections ne seraient ni crédibles, ni transparentes, ni apaisées. Si on maintenait cette machine-là, et si on n'extirpait pas les 10 millions d'électeurs, quoi. Voilà.
Nous reviendrons à vous tout à l'heure, Patrick Thierry André Kakwata, député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, MRL, parti politique membre de la majorité présidentielle. Patrick Thierry André Kakwata, une vingtaine de candidats à la présidentielle par exemple, le nombre vous convient-il ou vous dérange un peu?
Ce nombre confirme que réellement il y a démocratie. Il faudrait noter que si on a un nombre pareil, donc réellement nous sommes dans une démocratie, il y a une liberté d'opinion, une liberté d'expression et tout un chacun est capable de s'exprimer et de s'aligner là où il veut.
Alors, certaines allégations indiquent que certains candidats ont été fabriqués et fabriqués pour le pouvoir, pour les besoins de s'aimer un peu la diversion et la discorde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est ce qui prouve même réellement qu'il y a une démocratie. On permet à tout le monde de s'aligner. Donc il n'y a pas de candidature fantaisiste ou fabriquée. Mais c'est une manière qu'on vous prouve réellement qu'il y a une démocratie. D'où que vous êtes, vous pouvez vous lever un matin, vous avez un projet de société, vous avez une vision pour le Congo. Vous venez, vous vous présentez et personne ne vous bloque. Donc il n'y a pas une dictature et il n'y a pas un blocage. Vous vous présentez.
Alors, trois femmes pour le moment, en attendant que la CENI ait terminé avec les retardataires. Trois femmes candidates seulement, ça va aussi?
Mais vous devez comprendre qu'on commence toujours par un chiffre. On commence toujours par un. Si déjà nous en avons trois, demain on en aura 10, le lendemain on en aura 50. Mais est-ce qu'on a besoin d'un nombre 10, 50, même si on a une? C'est déjà une femme, et si elle est digne, capable et tout, et pourquoi pas la voter?
Alors,
donc on n'a pas besoin d'un nombre, mais on a besoin de la qualité, la méritocratie. Et la femme d'ailleurs est en train de le prouver qu'elle mérite et qu'à tous les niveaux, elle peut se présenter.
Alors, doit-on comprendre qu'avec la candidature, par exemple, d'Emmanuel Chadari pour le camp présidentiel, doit-on comprendre que le président Joseph Kabila a effectivement et définitivement renoncé à la tentation de briguer un troisième mandat présidentiel?
Vous devez comprendre qu'on n'a pas besoin de pessimistes. Nous n'avons pas besoin de pessimistes. Nous avons vu des séances de théâtre, si je peux dire, des scènes de théâtre où quelqu'un se lève d'un matin, il dit « je renonce à mes émoluments ». C'est pour un mois qu'il est allé remettre à la banque et puis le lendemain, il commence encore à toucher ses émoluments. Il ne les a plus retournés à la banque. On n'a pas besoin de ces scènes-là de « m'as-tu vu ». Nous avons besoin des gens qui agissent et qui sont concrets. Et je tiens à vous dire que, comme il a été dit, il respecte sa constitution. Voilà qu'aujourd'hui, d'une manière politique, nous nous sommes entendus. On s'est dit, au lieu d'aller d'une manière divergente, autant mieux qu'on ait un candidat d'une manière convergente et que nous puissions porter ce candidat vers la magistrature suprême. Et c'est ce que nous avons fait. Nous portons un candidat vers la magistrature suprême. Il n'est pas dit que quand on désigne, de facto, c'est que nous sommes déjà et la personne est déjà élue. Non. Nous peaufinons encore des stratégies pour porter ce candidat à la magistrature suprême. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en train d'organiser des élections. On a eu des élections en 2006, on a eu des élections en 2011. Bientôt, là, nous aurons encore des élections en 2018. Alors, ça ne sert à rien d'être pessimiste ou bien être m'as-tu vu ou bien nous montrer des scènes, parler, être comme un saint Thomas et par après, l'histoire est en train de vous rattraper.
Alors, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ça signifie, par cette candidature de Chadari, que le président de la République, contrairement aux soupçons qui étaient évoqués ici,
je vous ai répondu ne reviendra pas disant que
sur cette problématique.
Je vous ai répondu en disant que ne soyons pas pessimistes et ne prêtons pas des scènes de m'as-tu vu de certains qui, eux, ont préféré prendre la presse, aller démontrer X, Y, Z que je retourne les émoluments, mais ce n'était que pour un mois. La suite des mois, il a commencé à toucher ses émoluments et il s'est tu.
Mais le président Kabila, il a présenté. Il est d'une famille politique. Ce n'est même pas lui qui a présenté. La famille politique a présenté un candidat pour lequel nous allons nous tous nous aligner à porter ce candidat vers la magistrature suprême, dont le président Kabila fait partie de cette famille politique. Donc on ne voit pas le président Kabila reculer pour dire « je renonce ». Il a renoncé et il respecte la Constitution. Il a toujours dit « je suis respectueux de la Constitution ». Il l'a dit depuis tout ce jour-là et jusque hier au 8, il nous l'a démontré. On a clôturé les dépôts de candidature. Avez-vous vu le nom de Kabila? Non.
Mais il reste encore 24 heures pour les contentieux et les retardataires.
Qu'à cela ne tienne, c'est toute une famille. Nous sommes quand même des personnalités politiques. On ne peut pas nous prendre comme des petits-enfants. Qu'à cela ne tienne, c'est une décision d'une famille politique, ce n'est pas une décision d'une seule personne. La famille politique a donné sa position. Et on ne viendra pas changer. Nous sommes en train d'aller avec notre candidat.
Alors, d'autres compléments de questions. Commentez-nous un peu ces images qui circulent sur la toile. Elles peuvent être fausses, c'est à vous de nous clarifier. Est-ce que Emmanuel Chadari est vraiment le candidat qui remplace la candidature du camp présidentiel? On voit trois images particulières dans lesquelles, lorsqu'on annonce à tous les lieutenants de la majorité présidentielle que c'est Chadari, on voit les gens pas jubilés, ça c'est la première image. Deuxième image, ce n'est pas lui-même physiquement, malgré qu'il est à la CENI, qui amène son dossier à la CENI, et ce n'est pas lui qui signe sur ce dossier. Comment comprendre ça?
Cela m'étonne. Même moi qui vous parle ici, je suis candidat dans la ville de Kolwezi. Mais je suis ici à Kinshasa avec vous. Mais je peux vous dire que mon dossier est déposé dans la ville de Kolwezi. Il y a celui qu'on appelle le mandataire.
Mais pourquoi Chadari ne signe pas son dossier alors qu'il est présent juste à la chaise d'à côté?
S'il vous plaît, il ne signe pas parce qu'il y a un mandat. Je viens de vous dire de mon cas. Je prends mon cas concret et précis. Je suis candidat dans la ville de Kolwezi à la députation nationale. Je peux vous affirmer ici que mon dossier est déposé à la CENI en bonne et due forme. Et ça n'a pas été déposé par moi. Je n'ai rien signé. Il y a celui-là qu'on appelle le mandataire. Celui que vous voyez signé, c'est le mandataire que le regroupement a donné pouvoir d'aller signer et d'aller déposer la candidature de M. Chadari, qui il est le candidat d'une famille politique, d'un regroupement. Nous avons notre mandataire. Chadari n'est allé que se présenter physiquement. Moi, je ne me suis pas présenté physiquement à la CENI, mais je peux vous dire qu'à ce jour, mon dossier a été validé. Il est dans la ville de Kolwezi.
Et comment expliquez-vous ces autres informations de sources crédibles qui nous informent que la candidature d'Emmanuel Chadari est acceptée à la CENI comme une candidature indépendante?
Mais ce sont des stratégies d'une famille politique. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, vous aviez besoin qu'on vous donne un nom de la famille politique ou bien vous avez besoin de suivre les détails. Vous aviez besoin d'un nom de la famille politique et vous aviez besoin qu'on vous certifie que réellement le président de la République va respecter sa constitution et qui n'est même pas la sienne, qui est la constitution de tout un peuple congolais, qu'il allait respecter. Il y a eu des thèses qui sont venues en disant qu'une constitution qui a bougé entre deux mandats et tout cela, vous lui avez prêté des intentions, il y a eu beaucoup de procès d'intention. Voilà qu'aujourd'hui, lui, il vous dit « je suis respecté de la constitution », il vous dit que « j'ai fait mes deux mandats, voilà maintenant le tour d'un autre ». Une famille politique s'est réunie pour désigner un candidat. Ces candidats-là, d'ailleurs, nous n'aimons même pas le mot « la dauphin » parce que les requins blancs viennent manger les dauphins. Nous, on n'a même pas besoin de cela. Nous, on a besoin de dire qu'il y a un candidat de la famille politique FCC que nous avons porté. Qu'il soit indépendant, qu'il soit ce que vous voulez, ça, c'est nos problèmes, c'est notre cuisine interne. Mais nous, on a un candidat que nous devons porter à la magistrature suprême.
Et nous allons revenir à vous, Patrick Thierry-André Kakwata, professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Finalement, le coup de force soupçonné du président Kabila n'a pas eu lieu. Vous venez d'entendre les confirmations du député tout à l'heure. Donc ce coup de force n'a pas eu lieu et il n'y a pas eu de violence non plus. Votre commentaire.
Une nouvelle page de l'histoire s'est ouverte. Et celle-là, je ne dirais pas qu'elle est moins glorieuse. Il faut dire que en République démocratique du Congo, la succession au trône s'opère généralement de façon très violente. Et le chef de l'État sortant ou sorti est généralement éloigné du jeu politique. Et ça a été le cas de Kassavubu, soit alors qu'il est exilé, ça a été le cas de Mobutu, ou il est assassiné, ça a été le cas de Mzé Laurent Désiré Kabila. Alors pourquoi on dit aujourd'hui qu'on vient d'ouvrir une nouvelle page? Parce qu'en fait, au moins cette fois-ci, ces trois cas de figure vont disparaître de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne revivra plus ce passé lointain, mais aussi ce passé dont il faut absolument se débarrasser parce qu'il s'agit là d'un passé qu'il ne faut pas reproduire. Ça nous donne également une trajectoire particulière de notre histoire, une histoire politique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Kabila va sortir de ce geste un peu rehaussé. Bien sûr, certaines personnes vont dire, mais il aurait pu faire ça en 2016 et il serait davantage rehaussé. Il serait adulé aujourd'hui par toute la planète. Pourquoi il a attendu de le faire aujourd'hui? De toutes les manières, vous avez suivi à travers la planète. Les félicitations sont venues de partout. États-Unis, France, Belgique, tout le monde, Union européenne, Union africaine, tout le monde ont salué la désignation du dauphin. Et donc, la désignation du dauphin, de ce point de vue, a été une très grande avancée démocratique, mais aussi un moment fort de l'histoire politique.
Est-ce que, selon vous, il faut vraiment noter et considérer que le président Kabila ne confisquera pas le pouvoir, comme certains le soupçonnaient, en briguant un troisième mandat?
Mais si on s'en tient aux déclarations de la CENI...
Parce que vous avez la parole, mais vous voyez que les gens continuent de brandir des détails qui selon eux semblent flous. Pourquoi le candidat de la majorité dépose la candidature en tant que dauphin? Pourquoi ce n'est pas lui-même qui va déposer la candidature? Pourquoi il ne signe pas son propre dossier?
Non, il n'est pas signé son propre dossier, ça a été autorisé par la loi électorale. Donc le fait de ne pas déposer sa propre candidature n'est pas contre la loi. Et donc, moi, je crois plutôt qu'un chef de l'État ne peut pas, à mon avis, désigner un dauphin et en même temps se représenter. Il s'agit là, de mon point de vue, d'une situation claire. Le chef de l'État, après avoir désigné son dauphin, il ne pourra pas se représenter.
Il n'y a pas un schéma, peut-être, de pourrissement de la situation d'ici à la présidentielle pour qu'il soit décrété un état de siège?
En moi d'être prophète de malheur, mais je ne suis pas en train de voir les choses de cette manière-là. De toutes les manières, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire. Et dans le cas de figure en Afrique, quand on parle de l'alternance, il y a trois situations. La première situation, c'est qu'on a affaire à l'absence d'un changement au trône, c'est-à-dire un changement à la tête de l'État. Et dans ce cas-là, vous avez des chefs de l'État qui s'éternisent. Vous avez un deuxième cas, c'est que, en fait, vous avez un changement à la tête de l'État, mais avec le même parti. Et donc, c'est le cas, par exemple, avec la Tanzanie et d'autres pays où vous avez la désignation de dauphin, mais c'est ce dauphin-là qui finalement gagne les élections. Alors, est-ce que nous allons tomber, est-ce que la RDC va tomber dans ce deuxième cas où véritablement il y a un changement donc à la tête de l'État, sans véritablement que cela n'implique une alternance partisane? Alors, vous avez un troisième cas où non seulement il y a changement à la tête de l'État, mais c'est aussi un autre parti qui prend le pouvoir. Et donc, dans le cas actuel de la RDC, on est en train de voir si on tombera dans le deuxième ou dans le troisième cas.
Peut-on conclure à ce stade que ça y est, les élections en RDC seront une fête, même si on vient d'écouter l'opposition tout à l'heure, continuer de pointer du doigt certains éléments, réclamer la décrispation immédiate maintenant comme une des urgences et une condition sine qua non, la machine à voter, l'effectif et tout ça? Est-ce que les élections sont désormais dans la vision à venir une fête?
Ah non, on ne peut pas déjà déclarer cela. Le chemin est encore très long. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut résoudre. On parle de la... Il faut créer un consensus sur les modalités pratiques des élections. Et on semble écouter la majorité. Donc l'opposition qui a un certain nombre de préalables qu'il pose. Et donc je crois qu'il faudra
cette majorité. Ce sont des exigences normales, acceptables?
Alors, on n'a jamais eu dans ce pays une pratique, si vous voulez, d'utilisation de la machine à voter. Et par rapport à la machine à voter qui est innovation, il y a certainement beaucoup de craintes qui sont exprimées, non seulement par les partis de l'opposition, mais aussi par certains analystes. Et donc, par rapport à ça, il y a quand même nécessité qu'il y ait un consensus sur les modalités pratiques d'organisation des élections. Tant qu'il n'y a pas ce consensus, il sera très difficile d'avoir des élections apaisées. Et les élections apaisées, de mon point de vue, sont très importantes parce que après les élections, eh bien, vous pouvez avoir une situation explosive si jamais les contestations deviennent beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Et donc, il faudra éviter d'avoir des élections mal organisées qui finalement vont déboucher sur un chaos.
Alors, place à présent la parole à nos auditeurs. Et pour cette première prise de parole, nous allons du côté de Kananga et c'est Bob Bolaboué. Nous allons plutôt à Uvira et c'est Bob Bolaboué que nous invitons à suivre particulièrement ce commentaire.
Moi, c'est Amani Kassali Placide depuis Uvira au Sud Kivu. À mon avis, la candidature de M. Ramazani Shadari pour le compte des camps présidentiels explique une maturité politico-démocratique que le président Joseph Kabila vient de démontrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale. Mais les Congolais ne devaient pas se contenter à remercier le président Kabila comme si c'était un cadeau ou une faveur qu'il donne aux Congolais. Notons qu'il s'agit ici d'une obligation constitutionnelle à laquelle vient de s'acquitter le président sortant.
Bob Bolaboué.
Oui, je suis d'accord avec mon frère parce que normalement, cette obligation constitutionnelle, l'actuel président devait s'en acquitter depuis 2016. Parce que son mandat s'était terminé le 19 décembre 2016. Et si il était vraiment respectueux de la Constitution, c'est depuis 2016 qu'il serait plus président aujourd'hui. Et dans ce cas, Rossi ne serait pas mort. Maintenant, je voudrais revenir sur un ou deux points que je viens d'entendre aussi, que je ne peux pas laisser passer. Vous savez, Martin Fayoul, parce que je pense que mon interlocuteur n'a pas cité les noms de Martin Fayoul, mais il a parlé de Martin Fayoul. Parce que le seul député ici au Congo, qui est parti rendre des émoluments, c'est Martin Fayoul. Mais pourquoi
Me semble-t-il, après, il n'a pas continué.
Si, il a continué. Je vais vous expliquer. Martin Fayoul est parti d'une analyse. Il s'est rendu compte que le mandat de l'actuel président Kabila s'est terminé le 19 décembre. Après le 19, il n'avait plus mandat. Il a fallu que la CENCO puisse nous mettre ensemble pour un an. Le 31 décembre 2017, le président Kabila n'avait plus mandat. Pas seulement Kabila, toutes les institutions étaient devenues illégitimes, illégales. En commençant par le Parlement, la présidence illégale, illégitime. Lui, comme député, il s'est posé la question de conscience. Mais je suis devenu. D'abord, je prêche le fait que les institutions sont devenues illégales, illégitimes. Moi, je suis député. Pourquoi je dois continuer à aller siéger là-bas? Pourquoi je dois continuer à prendre ces émoluments? Non. Et il a arrêté. Il est parti. On lui a donné l'argent. Il a remis ça au trésor public. Et jusqu'aujourd'hui, je voudrais qu'on me prouve le contraire. Il n'a jamais touché l'argent. Je suis avec Martin tous les jours. Il n'a plus touché l'argent. Donc c'est le seul... Oui, je vous regarde en face, cher frère. C'est le seul député qui a été conséquent par rapport à son analyse. Ça se... Pour Martin Fayoul. Maintenant, je vais dire encore autre chose. Lorsque je tente de dire ici que voilà, les gens peuvent librement s'inscrire. Mais attendez, on a suivi le fait de Moïse Katumbi. On nous a dit que Moïse Katumbi, il est recherché par la justice congolaise. Il est arrivé pour entrer dans le pays. Mais il entre et puis arrêter les pouvoirs. On l'a empêché d'entrer. Mais de quelle liberté on veut nous parler ici? Non!
Est-ce que le pouvoir n'a-t-il pas bien réfléchi en cherchant d'éviter peut-être des tensions supplémentaires, des révoltes dans le fief où il est le plus populaire?
Quelle tension, puisque Moïse Katumbi, il est un citoyen congolais comme tout citoyen.
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec un vol commercial et puis arriver au pays normalement? Pourquoi il a souhaité venir avec son jet privé qui nécessite d'autres complications?
Un vol commercial, je ne peux pas venir avec son jet privé. Il est libre de venir avec n'importe quel moyen de transport. Tout à fait libre. Donc, je veux dire ceci tout simplement que je voulais démontrer que la liberté d'expression, la liberté de circuler, non. Donc, il y a des gens à qui on a enlevé cette liberté-là, le cas de Moïse Katumbi. Maintenant, j'ai encore d'autres choses à dire. Pour moi, cher ami, le fait que, exactement comme a dit notre ami de Kananga, le fait que le président Kabila nous a présenté un candidat, parce que moi, je ne parle pas des dauphins, dauphin lorsqu'on est dans un royaume. C'est le roi qui présente un dauphin. On parle de dauphinat dans un royaume. Là, normalement, nous sommes dans un système dit démocratique. Le parti se réunit et désigne le meilleur d'entre nous. Nous, par exemple, au niveau de la dynamique, après réunion, après débat, on a estimé que Martin Fayoulou est le meilleur d'entre nous. On va porter sa candidature, on va soutenir sa candidature. Parce qu'on a estimé qu'il est le meilleur d'entre nous. Donc, j'ai comme l'impression qu'au niveau de la majorité, ils ont aussi estimé que Chadari est le meilleur d'entre eux. Tant mieux si c'est le cas. Mais je pense qu'au niveau de la majorité présidentielle, on pouvait aussi trouver mieux.
Mais Bola Boué, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître quand même que la majorité présidentielle vous a donné une belle leçon d'organisation? Ils ont trouvé un candidat unique, ils l'ont présenté, alors que l'opposition, si on regarde dans la vingtaine, l'opposition est représentée avec une dizaine de candidats. Est-ce que vous ne pouvez pas, de ce côté-là, prendre l'exemple de la majorité?
Non, nous disons ceci. Nous n'irons pas aux élections d'une manière dispersée. Il y aura un candidat commun qui va nous représenter.
Ça sera quand le dépôt de candidature a eu lieu, bientôt nous allons aller à cette élection.
Tout à fait. Pour qu'il y ait un candidat commun, il faut au départ qu'il y ait eu multitude de candidatures. Donc maintenant, on sait maintenant les candidats. On va s'asseoir autour d'une table, on va discuter selon certains critères pour désigner le meilleur d'entre nous.
Merci.
Mais soyez sûr qu'on n'ira pas en ordre dispersé.
Merci, Bobo.
Et ce qui s'est passé dans le cas majorité, je veux dire qu'il n'y a pas eu débat. On a quelque part imposé leur candidat. Nous, on n'imposera pas.
Merci, Bobo Laboué. Nous allons donner la parole à un autre auditeur et nous invitons le député Patrick Thierry Kakwata de pouvoir tendre l'oreille pour écouter cet auditeur de Kananga.
C'est Jean-Philippe Combaille, depuis Kananga Kassai Central. D'entrée de jeu, je salue la démarche initiée par la CENI depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à la clôture. Mais en fait, le problème majeur au Congo n'est pas seulement les choix qui doivent faire, mais le problème majeur est la décrispation du climat politique en RDC. Donc ici, on veut seulement organiser les élections le 23 décembre 2018, comme la communauté internationale l'a souligné. Mais la problématique ou le problème majeur au Congo est qu'il faut décrisper le climat politique pour lancer les élections, mais sans machine à voter.
Patrick Kakwata, est-ce que l'opposition n'a pas raison sur ce point? C'est bien que le président de la République ait soulagé un premier souci, mais il reste encore d'autres soucis.
Ce que vous devez noter, un processus électoral a des étapes. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de dépôt de candidature. Nous avons commencé par l'enrôlement, on a nettoyé les fichiers et on a demandé le dépôt de candidature. Il y a eu dépôt de candidature des provinciaux. Aujourd'hui, c'est dépôt de candidature de nous, députés, disons au niveau des nationaux et présidentiels. Et puis après, on va évoluer. Pour ce qui est de demander si c'est la machine ou quoi que ce soit, c'est un problème qui concerne la CENI, c'est un problème technique que la CENI elle-même inviter Radio Capi, inviter la CENI qu'elle vienne expliquer d'une manière technique qu'est-ce que c'est cette machine, s'il il la faut ou pas.
Est-ce que la majorité, elle, n'a pas de soucis par rapport à ce
niveau? Nous, on n'a pas de soucis. Il faudrait dissocier les choses. Il y a la situation politique et la situation d'organisation des élections qui appartient à la CENI. Nous, sur le plan politique, nous sommes arrivés à l'étape où il fallait déposer les candidatures. Chose faite. Ça pouvait inquiéter tout le monde si au moins au dépôt des candidatures on ne nous a pas vu déposer. Mais voilà que nous avons déposé. La suite, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. La suite, c'est la CENI qui organise les élections. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui organise les élections, moins encore l'opposition ou la société civile. L'organisation des élections, c'est la CENI. Elle est indépendante. Ce n'est pas nous.
Donc vous, à votre niveau, vous restez confiant que, comme il y a des étapes, le souci de l'opposition est peut-être le prochain effort qui sera fait pour les prochaines étapes.
Mais je crois bien que s'ils n'ont pas compris, je suis prêt à aller donner cours à l'opposition, leur faire apprendre qu'est-ce que c'est un processus électoral. Que je leur explique d'où est-ce qu'on commence et jusqu'où. Le processus électoral prend fin à la promulgation des résultats. C'est là où ça prend fin. Nous sommes dans un parcours. Alors si eux veulent courir, mettre la charrue devant le bœuf, c'est pour ça que je me dis, nous sommes en face des pessimistes.
Patrick Thierry André Kakwata, on profite de l'occasion que vous-même physiquement vous êtes là, vous êtes candidat député national. Parlez-nous un peu de votre propre situation. Où est-ce que vous en êtes? Pouvez-vous nous confirmer que vous avez bel et bien déposé votre candidature? Est-ce que vous êtes satisfait aussi de cette opération au niveau des législatives nationales?
Mais oui, je suis satisfait du fait que je vous ai même dit ici, j'ai pris mon exemple et j'ai dit que j'ai déposé ma candidature dans la ville de Kolwezi. Ça a été déposé par mon mandataire et ça a été validé. Et à ce jour, la CENI fait son travail comme il se doit. Et bien qu'on a clôturé les dépôts, ceux-là qui étaient là, ils peuvent en témoigner. Il n'y a personne qui se plaint. Ils peuvent en témoigner que ça se fait comme il se doit et la CENI est dans toute sérénité en train de faire son travail. Nous devons arriver à faire confiance à nos propres institutions. C'est nous qui les avons placées. Mais si demain nous plaçons la CENI, les animateurs de la CENI ont été présentés à l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas composée d'une majorité présidentielle seulement. L'Assemblée est composée de la société civile, elle est composée de l'opposition, elle est composée des personnalités indépendantes, elle est composée d'une majorité présidentielle. Alors, tout ça compose une Assemblée, la représentation du peuple. Nous avons accepté, nous avons validé, entériné ces animateurs. Et aujourd'hui, vous voulez crier parce que vous savez que vous allez échouer. Mais et dire que nous, moi ici, je vous ai dit, bien que notre candidat est là, on n'a pas dit que directement d'emblée, nous avons réussi. Nous sommes en train de peaufiner des stratégies, comment faire notre campagne pour que notre candidat passe. Même moi-même, Kakwata, je suis en train de peaufiner mes propres stratégies pour voir comment puis je serai élu dans la ville de Kolwezi. Là où le peuple lui-même, mon patron, que j'ai l'habitude toujours d'appeler mon patron, qui va m'évaluer. J'ai un bilan à leur donner et je suis en train de leur donner. Je suis toujours avec eux. Qui m'évaluera au moment venu pour dire « Serviteur, bon, rentre à Kinshasa, va travailler. » Et c'est ce que je fais. Et si même je suis ici, c'est parce que cette population m'a envoyé venir travailler ici à Kinshasa. Et je le fais ce travail. Donc je ne suis pas absent de Kolwezi, je suis à Kinshasa pour un but bien précis qui m'a envoyé venir faire à Kinshasa. Je rentre pour eux.
Professeur Félicien Kabamba, il y a une réflexion que nous vous invitons à écouter. Elle vient de Lomami.
Ferran Kapepula depuis la ville de Kabinda, province de Lomami. La fermeture des BRTC ne concerne aucunement les peuples congolais car la candidature de Moïse Katumbi n'est pas enregistrée. Pour le FCC, ils ont fait un faux calcul par le fait que Shadary est visé par les sanctions américaines et européennes. Le petit temps qu'il a mis au poste de VPM, nous avons observé un désordre généralisé dans beaucoup de provinces. En général, et particulièrement dans la province de Lomami, où on a vécu un scénario de fermeture brusque des assemblées provinciales sans juste et valable motif.
Alors, cet auditeur s'inquiète encore de l'absence du député Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Mais avant juste votre réaction, juste clarifier pour ceux qui ne sont pas habitués des abréviations, que VPM dont il fait allusion ici, c'est vice-premier ministre, poste que Emmanuel Shadary a occupé au niveau du ministère de l'Intérieur.
Eh bien, je venais de dire que le chef de l'État sortait rehaussé de la désignation du dauphin. Mais en fait, il y a là un souci que toute la communauté internationale exprime, mais aussi que toute la communauté nationale exprime. C'est qu'en fait, il faut avoir un processus ouvert, un processus inclusif. Et dans ce processus-là, il faut absolument que tout le gros poisson, que tout le Congolais soit concerné. Alors, tout le monde se demande pourquoi Moïse Katumbi connaît autant de déboires, tout simplement pour avoir déclaré qu'il est candidat à la présidence de la République. Il y a là, de mon point de vue, une possibilité qui est encore ouverte, selon moi, de permettre que Moïse Katumbi vienne, à l'instar de tous les autres citoyens, jouir de ce droit. C'est de cette manière-là. D'ailleurs, ce serait une mesure de décrispation qui va davantage rehausser le chef de l'État. Aller dans ce sens permettra au chef de l'État une sortie beaucoup plus honorable. Parce que il s'impose aujourd'hui pour le chef de l'État de sortir, non pas en laissant dans les prisons des opposants politiques, mais plutôt, il doit, avant de partir, poser des gestes en termes de décrispation. Et ce premier geste doit, de mon point de vue, concerner Moïse Katumbi avant qu'il ne concerne évidemment d'autres opposants qui ont également des plaintes analogues à formuler. Le cas Moïse Katumbi est un cas qui est extrêmement important, qui est prioritaire. Il faut absolument revoir ce cas pour permettre à Moïse Katumbi de se représenter.
Mmh. Est-ce qu'on peut aussi considérer que le fait que l'opposition continue de revendiquer, ça doit aussi être une urgence que la majorité, voire le chef de l'État, pourrait regarder avec beaucoup plus d'attention?
Mais vous savez que quand un chef de l'État quitte le pouvoir, ou quand il a l'intention de quitter, il accélère, évidemment il se prépare un terrain. Prépare un terrain de sortie. Et le terrain de sortie, c'est qu'il faut absolument que tous les dossiers à problème, qu'il les élimine pour qu'il ne soit pas récupéré par son successeur. Que le successeur ne dise pas que c'est lui. Non, mais il faut absolument que le chef de l'État vide ce petit dossier. Et je crois qu'il va le vider avant le mois de décembre.
Alors, votre regard sur l'opposition.
Allez-y. Il y a une question qui a été posée concernant Ramazani Shadary. Oui. En fait, vous avez là une désignation qui probablement a étonné beaucoup de monde, dans la mesure où nous n'avons pas vu venir Shadary. En fait, un dauphin se prépare. Et le préparer, dans ce cas, aurait été lui donner la possibilité d'être en face d'un électorat qu'il allait séduire sur la durée. Et donc, nous n'avons pas vu Shadary avoir de position qui pouvait lui permettre, si vous voulez, d'être en contact permanent avec un électorat qu'il séduirait sur la durée et qui, aujourd'hui, si vous voulez, lui permettrait d'être en symbiose et en contact permanent avec cet électorat-là. Et ses positions, moi j'avais plutôt pensé que ce pouvait être Matata, parce qu'il a été Premier ministre pendant longtemps, il a pris plusieurs décisions, des bonnes décisions quelquefois, et qui ont permis, si vous voulez, un rapprochement avec le peuple. Alors, le fait que Shadary ait occupé une position qui, du point de vue, était une position compliquée, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur à un moment d'une très forte conjoncture politique, et donc cette position-là ne me semble pas donc le prédestiné à occuper, disons, à jouer aujourd'hui le rôle de dauphin. Mais vous savez que nous sommes dans un champ politique où il y a beaucoup de choses qui arrivent et que l'on ne peut pas seulement justifier par la simple rationalité, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont intervenus certainement dans la désignation de Ramazani Shadary. Mais je tiens à dire que Ramazani Shadary est aussi un intellectuel. Je tiens à préciser qu'il est de ma faculté. Il est de ma faculté et donc il a présenté un travail qui était très très bien fait, et donc j'estime qu'il a les capacités d'assumer ses fonctions.
Alors je vais vous poser une question en deux. La candidature féminine, ou alors le nombre de femmes pour le moment enregistrées pour la présidentielle, mais tout à l'heure vous avez aussi entendu le côté de l'opposition, ils sont à peu près une dizaine à être de l'opposition. Est-ce que vous les voyez se mettre d'accord pour une représentation unique?
Alors le champ politique congolais est un champ qui est très masculinisé. Et le travail de l'insertion progressive de la femme dans le champ politique doit être un travail progressif. Il faut le commencer dès aujourd'hui. Et le problème ne pose pas seulement en termes de la femme qui entre dans les partis politiques, mais il se pose aussi en termes d'électorat. Un électorat qui n'a pas l'habitude d'accorder sa voix beaucoup plus aux femmes. Et donc vous avez là, le problème n'est pas le nombre de femmes, le problème c'est, oui, qu'elle soit une seule femme, combien deux hommes et combien de femmes vont voter pour elle.
Merci prof Félicien Kabamba, c'était là votre conclusion. Patrick André Kakwata, la suite du processus, vous êtes confiant?
Je suis confiant, je reste optimiste et nous aurons à avoir de bons résultats. La République démocratique du Congo ne changera pas, nous allons continuer.
Merci, bon, alors, Boulaboué, une seconde, vous êtes confiant?
Non, moi je suis, comment dirais-je, comme il a dit, pessimiste, tout simplement.
Cette émission est terminée, merci d'avoir participé, Donat Madimba à la présentation, au revoir, à la prochaine.